Bonjour. Mission impossible. Certains d'entre vous se rappellent encore du générique. C'était le film du dimanche soir que nous attendions toute la semaine avec ce document va s'auto-détruire. Mission impossible en mer Égée. Mission impossible en mer Égée. Qu'est-ce qu'il y a en mer Égée? En mer Égée, par exemple, il y a... Ouais. Des îles, notamment une petite île que vous voyez à l'est de la Grèce. Une île qui s'étire d'est en ouest sur 200 km de long et 20 km de large et qui, en son milieu, est dotée d'une ligne de crête. D'ailleurs, l'île s'appelle la Crète. C'est une mini montagne qui fait comme une épine dorsale dans cette île, dont la hauteur maximum est 2164 mètres, donc c'est pas non plus... Voilà. L'île de Crète. Mission impossible en île de Crète. La réputation de la Crète est d'être, dès l'Antiquité, très urbanisée. À l'époque de l'Iliade, l'île aux 100 cités. Donc elle était très peuplée, très organisée, très urbanisée. C'était pas la seule... La seule caractéristique de cette île. Je voulais aller de l'avant. Non, mais c'est moi qui... Voilà. Hop. Les archers crétois étaient célèbres pour leur dextérité. Il y avait des bataillons d'archers crétois, mercenaires. C'est-à-dire que les armées antiques louaient un, deux bataillons d'archers crétois pour avoir plus de chances de gagner leur bataille. Donc, ils étaient connus pour être d'excellents archers. Ça, c'était plutôt bien. Ils avaient d'autres caractéristiques plutôt moins bien. Ils étaient réputés pour être des goinfres, pour être particulièrement débauchés et pour être fourbes. Rien que ça. Donc, c'est l'île de Crète. Il se trouve que bien que la lettre écrite par Paul à Tite, où il lui dit « Je t'ai laissé en Crète pour que tu mettes en ordre... » On va profiter, hein, Hello. Pour que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Mettre de l'ordre. Ça indique qu'il y a du travail à faire. Mais on ne s'attendrait pourtant pas à de telles complications. Décidément, je vais comprendre le sens de la... Voilà. Complications. Voilà ce qu'on lit. Il y a en effet, en Crète, dans l'île où je t'envoie pour mettre de l'ordre, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et des séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. OK. Donc des mauvais ouvriers qui font du mauvais travail et qui bouleversent des familles entières à qui il faut fermer la bouche. Leur propre prophète, un poète, Épiménide, 600 ans avant Jésus-Christ, a rendu des Crétois ce témoignage. Crétois toujours menteur, méchante bête, on pourrait dire bête fauve, ventre paresseux, et Paul précise, ce témoignage est vrai. D'accord ? C'est pourquoi reprends-les sévèrement. OK ? Puis il dit ces choses, reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Donc voilà un peu la mission. Tite, un jeune homme, un fils spirituel de Paul, tu vas aller mettre de l'ordre au milieu de ces gens-là qui ont déjà cette réputation notoire d'être méchants, goinfres et fourbes, qui, dans l'Église, font du mauvais travail et vis-à-vis desquels tu vas devoir, avec autorité, remettre les choses d'équerre. Voilà la mission. Il va lui en falloir, à titre du courage, pour accepter la mission et pour essayer de la mener à bien. Je t'ai laissé en Crète pour aller mettre de l'ordre au milieu d'une peuplade de gens difficiles, rebelles, qui n'auront pas envie de t'écouter, qui n'auront pas envie de se laisser remettre en question.
Ok.
Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. L'île aux 100 cités, hein, il y avait du taf. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque ou l'économe de Dieu, voilà, ou le responsable de l'Église, soit irréprochable, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux. Tite, tu vas devoir trouver dans ce contexte-là, dans cette île-là, des gens irréprochables.
Ok.
Et tu vas avoir un message à apporter. Un seul message. Mais tu vas devoir l'apporter avec force, avec détermination, avec audace. Un seul message, un message à prêcher, et pas un seul message à presser. Hein? D'accord ? Un seul message à prêcher. Mais à prêcher avec force, mais pas seulement le prêcher, le vivre. Cette parole certaine, je veux que tu affirmes ces choses. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres, donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable. Tu vas devoir trouver dans toutes ces villes des gens irréprochables, mais tu vas devoir toi-même, dans toutes ces villes, te montrer irréprochable, un modèle en toutes choses. Tu veux toujours y aller, Tite, t'es sûr ? T'es sûr que t'es le bon sujet pour aller accomplir cette mission-là ? Incarner ce message. Un message qui s'adresse à tous. Et la première des choses qui est vraiment importante, qui vient vraiment comme un leitmotiv dans ce deuxième chapitre, c'est la façon dont Paul insiste sur la nécessité de proclamer ce message. Pour toi, dis les choses. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans l'amour, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin. Exhorte les jeunes gens à être modérés. Exhorte les serviteurs à être soumis. Rappelle-leur. Dis ces choses, exhorte, reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. Dis, rappelle, exhorte. Quelle insistance sur la nécessité de faire passer ce message. Pourquoi ? Pourquoi ce message est-il si important ? Pourquoi, dans le peuple de Dieu, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, les serviteurs, les patrons, pourquoi toutes les tranches d'âge, tous les sexes, tous les milieux sociaux doivent chercher à honorer Dieu dans leur conduite et dans leur vie quotidienne ? Parce que c'est l'honneur de Dieu qui est en jeu. Parce que c'est la gloire de Dieu qui est dans la balance. Et Paul le dit à plusieurs reprises, pourquoi ? Afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Que les gens ne disent pas quoi ? Toi, tu dis chrétien, tu as des versets dans la bouche et tu te comportes comme ça, là, dans la boîte ? Shame on you ! Afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Pourquoi nous sommes appelés en tant que chrétiens à l'irréprochabilité ? Parce que c'est Dieu que nous devons refléter. Et que les gens qui nous voient, qui nous entendent, qui nous écoutent, ont tôt fait de mettre en parallèle l'image qu'ils vont se faire de Dieu et ce qu'ils nous voient vivre. Vous savez, c'est ce passage de Philippiens 2,15. « Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » On sait bien, en tant que parents, que nos enfants peuvent nous couvrir de fierté ou nous couvrir de honte. selon leur comportement. Vous savez, on va aller chez la tata Adèle. Alors, on refait le briefing hein, juste avant. Alors, tu te rappelles, hein, tu demandes la permission pour aller. Hein, tu dis bonjour à la dame, tu te mouches. Voilà. Pourquoi ? Parce que si jamais le gamin, et les gamins, ils sont clairs et nets, ils sont cash. Hein, si le gamin, il sort un truc qui ne devrait pas au moment où il ne faudrait pas, ben, le gamin, il se rend compte de rien. C'est nous qui nous cachons sous la table. Parce que la honte revient sur nous. Mais pour notre Père Céleste, c'est la même chose. Si en tant qu'enfant de Dieu, des enfants de Dieu, purs et irréprochables, pourquoi ? Parce que c'est l'honneur de papa qui est en jeu. Et si les gens nous disent « Mais qu'est-ce qu'il est mal élevé, ce gosse ?» Mais la honte, elle rejaillit sur Dieu. Est-ce que Dieu m'élève mal ? Est-ce que Dieu ne m'aime pas assez ? Est-ce que Dieu ne me donne pas assez de bons conseils pour que je puisse mener une vie digne, qui l'honore et qui le glorifie ? Bien sûr que oui, parce que Dieu est un Père parfait en tout, absolument parfait en tout. Et mon comportement va forcément, pour ceux qui m'entourent, être mis en relation avec l'image qu'ils se font de Dieu. Comme certains le disent, c'est vrai que probablement la seule Bible que vont lire les gens qui nous côtoient, c'est notre vie. Vous connaissez ce passage de Paul ? Vous êtes une lettre ouverte, connue et lue de tous les hommes. Les gens qui nous entourent ne sont pas dupes. Vous connaissez cette phrase d'un chrétien qui prêche à ses collègues, puis il y en a un qui lui dit « Écoute, ce que tu vis crie tellement fort à mes oreilles que je n'entends plus ce que tu me dis. » Notre vie parle plus fort que ce que nous pouvons dire. Et donc, il est important qu'elle soit cadrée, qu'elle soit conforme à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu, irréprochable. Waouh ! Alors, on a parlé un peu de la réputation des Crétois, des goinfres, des méchants, des fourbes, toujours menteurs. Mais les Crétois vivaient dans un contexte plus large. Ils vivaient dans l'Empire romain. Mais c'est quoi l'Empire romain ? L'Empire romain, c'est d'abord une armée terrible, omniprésente, qui guerroie sans cesse, soit pour élargir l'Empire, soit pour conserver les frontières. Une armée omniprésente et qui ne rigole pas. Disciplinée. Ce sont aussi des voies de communication comme il n'y en avait encore jamais eu à l'époque. Le commerce pouvait librement circuler dans tout l'Empire, par mer, par terre. Mais pas que le commerce. Les virus circulaient aussi beaucoup plus vite qu'avant. Il y a eu deux épidémies de variole qui ont fait une véritable hécatombe dans l'Empire romain à deux reprises. Ça ne vous rappelle rien, un virus qui circule très librement dans le monde entier, très rapidement, et qui fait l'hécatombe ? Ouais ! C'était un mode de vie qui se répandait aussi à la même vitesse. Les Romains étaient des gens qui aimaient les orgies, la luxure, la débauche. C'était organisé, c'était normalisé, c'était légalisé. Ça ne vous rappelle rien ? Une débauche organisée, légalisée, normalisée. On dira que le mal est bien, que le bien, c'est mal. Mais on est en plein dans l'Empire romain, finalement. L'Empire romain, c'était les jeux du cirque. Nous, quand on allait au cirque, c'était pour voir les éléphants et les clowns. Eux, quand ils allaient au cirque, c'était pour voir le sang couler. L'un des empereurs, seulement pour inaugurer son mandat, a fait des jeux pendant une durée assez longue, au cours desquels il a sacrifié, pas des milliers d'animaux sauvages, des centaines de milliers d'animaux sauvages, dont le sang a rougi le sable de l'arène, pour faire la fête. Les familles allaient au cirque, pas pour jeter des... Non! Pour dire « À mort, à mort ! Vas-y, égorge-le, ouais !» Des femmes, des enfants. Mais l'Empire romain, c'était une violence à un niveau, mais impressionnant. Mais on vit quoi, en ce moment ? La violence intrafamiliale atteint des sommets jamais égalés. Notre contexte, finalement, n'est pas si différent de celui des Crétois. On vit dans un monde où l'armée, on n'entend parler que de ça. De menaces de guerre, de drones d'armée qui se déplacent, qui se préparent, qui se... La communication, elle est envahissante. La débauche, omniprésente. Je veux dire, on peut difficilement circuler dans la rue. Nous, les hommes, je ne sais pas si vous avez les mêmes yeux que moi, mais les affiches, ça devient compliqué, hein. Même en conduisant, conduire en fermant les yeux, je ne vous le conseille pas. Mais il y a des affiches, waouh ! C'est bientôt la Saint-Valentin, vous voyez de quoi je parle. Et puis cette violence ultra présente partout, partout, partout. On est en plein dans le même contexte. C'est pas concrète. Paul le dit, nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, digne d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Finalement, ce n'était pas que les Crétois. Finalement, ce n'est pas que les autres. Et Jésus le dit, c'est du dedans que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, le péché. C'est du dedans qu'il vient s'exprimer et qu'il nous tente. Nous aussi, nous étions avant, comme des Crétois. Pas meilleurs. Pourquoi ? Parce que nous partageons le même genre humain atteint depuis la faute d'Adam et Ève par le problème du péché. Et le mal qui est en nous ne demande qu'à se manifester, s'extérioriser. Et il va le faire d'autant plus facilement que ça devient tout à fait normal. D'être fourbe, d'être goinfre, d'être méchant, d'être crétois. Ben, c'est normal, je suis crétois, donc je suis comme ça. Je suis un humain, une humaine, donc je suis comme ça, c'est normal. Mais est-ce que c'est ça le projet de Dieu pour moi ? Est-ce que c'est ça la pensée de Dieu pour ma vie ? Pourquoi envisager un changement aussi radical ? Pourquoi alors que par nature, je suis ainsi ? Pourquoi chercher l'irréprochabilité ? Pourquoi vouloir un tel écart ? Parce que Dieu tient des comptes. C'est un apothicaire qui additionne tout ce que je fais de mal, qui en soustrait le peu de bonnes choses que j'arrive à faire, qui tient les comptes chaque jour et qui m'attend au tournant pour me dire « Non, bah désolé ». Connaissez l'histoire de ce roi qui fait un festin ? Puis Dieu envoie une main écrire sur le mur. Peser, compter, diviser. Tu as été pesé dans la balance, tu as été trouvé léger. C'est ça qui m'attend ? Ouais, c'est vrai, je reconnais, Jean-Philippe, tu as fait quelques efforts dans ta vie. Mais ça n'a rien effacé de tout le mal que tu as fait aussi. Donc, léger, dégage. Compter ta vie, ton règne a été compté. Et Dieu a décidé d'y mettre un terme. Qui peut affirmer demain, je serai encore vivant ? Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 40 ans, je serai encore vivant ? Nul ne sait. Or, après la mort vient le jugement. Où trouver une espérance ? Heureusement, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas ce boutiquier qui fait des comptes. Ah ! Et Paul donne la raison pour laquelle il encourage ses Crétois à chercher l'irréprochabilité. C'est pas parce que Dieu est saint, c'est pas parce que Dieu est sévère, c'est pas parce que Dieu est dur, c'est parce que Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. C'est à cause de sa grâce et de sa bonté. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. Dieu, dans son immense grâce, dans son immense amour, est venu lui-même vivre dans un corps de chair et de sang pour affronter le mal, le péché, la mort, pour triompher du mal, du péché, de la mort, du diable, pour verser son sang sur la croix, en rançon de mon âme, pour purifier, effacer, pardonner mon péché par son sacrifice. Et à cause de cette immense grâce, de cette immense bonté de Dieu, il m'offre un salut qui n'est basé que sur sa miséricorde. En aucun cas sur mes bonnes œuvres, que sur sa miséricorde. Le texte dit ceci. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, à vivre dans ce siècle, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même. Il s'est donné lui-même pour nous racheter de toute injustice et se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Nous sommes entre deux manifestations de Dieu. Sa grâce, sa bonté pour nous ont été manifestées quand il est venu souffrir et mourir sur la croix. Mais bientôt, sa gloire va être manifestée. Et c'est notre bienheureuse espérance. Si j'accepte son pardon, si j'accepte sa grâce, je vais être accepté, moi, dans sa gloire, dans son règne. Et ça, c'est pour bientôt. Et c'est ça qui me motive à ce changement si radical, à ce changement possible, rendu possible à cause de sa grâce, à cause de sa bonté pour moi. Si je n'accepte pas son pardon, je n'arriverai jamais à changer. Oui, peut-être un tout petit peu, mais si peu. Jamais assez pour être irréprochable. Or, dans le ciel, il n'y aura que des gens parfaits. Pas rendus parfaits par leurs efforts, rendus parfaits par l'œuvre de la grâce, de la bonté et de l'amour de Dieu dans leur vie. Et ça, ça doit me motiver. La grâce n'est pas un libre accès au péché. Certains disent, mais Dieu m'a fait grâce. Alors je peux pécher gaiement, joyeusement, voluptueusement, abondamment. Non, c'est pas ça la grâce. La grâce a un prix. Chez nous, on a une croix là, alors j'ai tendance à... Mais elle n'est pas là. Non plus. Bon, la grâce a un prix. C'est le prix du sang de Dieu versé sur la croix. On ne peut pas juste dire, ben, je suis sauvé, je suis pardonné, donc je fais de ma vie ce que je veux. Si je dis ça, mais c'est que j'ai rien compris. La grâce nous enseigne. Elle nous enseigne dans ce siècle, mauvais, méchant, en pleine dérive morale, à vivre une vie juste et sainte, dans une confiance et une relation intime avec Dieu. C'est donc pas que pour les Crétois, ce message. C'est aussi pour nous aujourd'hui qui vivons dans une époque où, c'est vrai, le monde qui nous entoure est en pleine dérive. Il est dans la méchanceté, il est dans le mensonge, tellement de mensonges. Il est dans les excès de tout genre, de tous ordres. Et cette parole de Dieu vient nous dire, dit que les personnes âgées doivent être des modèles de foi, de sagesse, de modération, dit que même les jeunes, malgré toutes les tentations qui nous entourent, doivent être modérés, justes, proches de Dieu. Dit que les jeunes femmes, aussi belles qu'elles puissent être, doivent faire attention à la façon dont elles se comportent en public, parce que le but, c'est pas de faire tomber tous ceux qui passent dans la rue. Des fois, je dis à ma chérie, mais tu vas aller en vélo comme ça, mais il va y avoir plein d'accidents sur ta route. Eh oui! C'est que notre vie éclaire notre entourage de sa présence. Et on pourrait appeler cet épître l'épître des bonnes œuvres. Parce que Paul insiste lourdement, j'ai mis que trois passages, mais il y en a plus que ça. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer des bonnes œuvres, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. D'être soumis aux magistrats, aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. Cette parole est certaine, je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Est-ce que Paul est en train de renoncer à ce qu'il a dit précédemment ? C'est par grâce, c'est par miséricorde ? Est-ce qu'il dit maintenant, oui, mais finalement, vous devez quand même mériter, gagner quoi que ce soit ? Non. C'est comme dans Éphésiens 2, 8 à 10. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Car vous avez été créés, recréés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance. Pas pour que vous méritiez le salut, parce que vous avez reçu le salut. Mais comment les pratiquer? Comment être capable de vivre dans ce nouveau mode de vie? Bien heureusement, Dieu nous donne la réponse. Si on revient à ce verset, voilà. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, selon sa miséricorde. Par contre, il ne nous a pas que sauvés. Il n'a pas que mis nos comptes à zéro. Par le bain de la régénération, par le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous en abondance, il nous a rendus capables de mener une vie nouvelle. Par sa présence en moi, par le Saint-Esprit, Dieu qui est venu habiter en moi quand je l'ai reçu comme Sauveur et Seigneur, me donne une force et une motivation nouvelle pour oser chercher le décalage entre ce que j'étais et l'ambition de Dieu pour moi, irréprochable. C'est uniquement par la présence de son Esprit dans mon cœur et dans ma vie que je peux lutter contre le péché et le mal qui est en moi et autour de moi et recevoir de sa grâce, de sa bienveillance, la victoire dans tous les défis qui sont les miens au quotidien et chercher à devenir ce modèle qui va encourager les autres à grandir et à croître dans leur foi, non seulement dans leur connaissance théorique de Dieu, mais dans leur piété, dans leur amour, dans leur affection pour Dieu et leur désir de plaire à Dieu en toute chose, par sa présence, par le Saint-Esprit dans ma vie. Dieu a éclairé ma lampe. Dieu a mis sa lumière dans ma vie, pas pour qu'elle soit sous le boisseau, la mesure à grain, le truc tellement opaque qu'une fois qu'elle est dessous, ben on ne voit plus qu'il y avait de la lumière en fait. Non, pour qu'elle soit sur la table et que tous ceux qui entrent voient la lumière, soient éclairés et aient envie à leur tour de s'approcher d'un Dieu de grâce, d'un Dieu d'amour, d'un Dieu de miséricorde. Alors, on a cette promesse. Dieu ne nous laisse pas tout seuls dans ce combat. C'est son ambition pour nous, mais il nous accompagne pour y arriver. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles, irréprochables, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé à ça est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Mais il ne le fera pas contre notre gré. Il ne le fera pas sans notre accord. Il le fera si je veux vivre ça, si je lui donne toute liberté de le faire, si je suis totalement partie prenante de cette œuvre en moi. Est-ce que je suis prêt? Je ne sais pas, et personne ne peut affirmer que Tite ait réussi ou pas cette mission difficile. Rappelle-leur d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Irréprochable, quoi. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. La question qu'on peut se poser ce matin, c'est pas « est-ce que Tite a réussi sa mission ?» C'est « est-ce que cette épître de Paul aujourd'hui m'a interpellé moi personnellement ? » Est-ce que moi j'ai le désir de permettre à Dieu de faire de moi un Tite dans l'île où il m'a placé ? Est-ce que je suis d'accord de permettre à Dieu de faire de moi un Tite dans l'église où il m'a placé ? Vous savez que Paul disait à Timothée, montre-toi à tous égards un modèle, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, que personne ne méprise ta jeunesse. On peut être jeune et aspirer à devenir un modèle, parce que c'est la pensée, le projet de Dieu, en fait, pour notre vie. Alors la dernière question que je vous pose, c'est cette mission. Est-ce que vous l'acceptez ?